Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 16 personnes en lien avec le périscolaire parisien, toujours en garde à vue ce matin dans les locaux de la brigade de protection des mineurs, interpellés hier pour des faits de nature et de gravité différentes. Un an après la promulgation de la loi trafic, le premier bilan des expulsions locatives des HLM pour les familles de dealers au nombre de 29, c'est une information RMC. Et les annonces de Sébastien Lecornu, grande conférence de presse à 17h sur l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient, avec de nouvelles aides à la clé.
Vaste coup de filet dans le périscolaire parisien.
16 personnes sont toujours entendues ce matin dans les locaux de la brigade de protection des mineurs. Elles sont en lien avec le périscolaire de 3 écoles parisiennes interpellées hier matin dans le cadre de plusieurs enquêtes distinctes. Bérangère Bocquillon, plusieurs enfants des élèves maternels de Saint-Dominique, de Rapp et de La Rochefoucauld ont décrit des agressions, des violences et des viols perpétrés par des animateurs de Saint-Dominique, épicentre du scandale.
Une trentaine de plaintes pour violences physiques, exhibitions sexuelles, agressions ou viols. Les 16 personnes qui sont entendues depuis hier ont entre 18 et 68 ans. Trois d'entre elles sont des responsables du périscolaire, trois autres des ASEM, ces agents en classe avec les enfants, et les 10 autres sont des animateurs. Marie a porté plainte pour le viol de sa fille contre un animateur de Saint-Dominique. Elle ne s'attendait pas à 16 gardes à vue.
Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes impliquées au sein de l'école.
Et elle attendait désespérément ces interpellations.
Un grand soulagement, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup. Ça fait presque 4 mois maintenant qu'on a déposé plainte et ça a été 4 longs mois à savoir que les agresseurs, les violeurs de notre fille étaient toujours en liberté, voire potentiellement qu'ils travaillaient toujours auprès d'enfants.
Les familles attendent également que la lumière soit faite sur toute la chaîne des responsables du périscolaire, l'administration et les élus de la ville de Paris.
Et ne manquez pas, juste après le journal de Thibaut Texer, la cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Évidemment qu'elle estime que c'est une étape importante, ces arrestations, mais elle considère, comme de très nombreux parents, qu'il faut immédiatement mettre en place des mesures d'urgence et que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui dans les écoles parisiennes.
Un chiffre, 29, c'est le nombre de dealers ou familles de dealers expulsés de leur logement en France. C'est une information que vous révèle RMC, qui a pu obtenir le premier bilan. Un an après la promulgation de la loi narcotrafic, l'une des dispositions de cette loi permet au préfet d'enjoindre les bailleurs à expulser l'occupant d'un logement s'il vend de la drogue, dégrade ou squatte un hall d'immeuble. 29 expulsions, Maxime Clieruza du service police-justice RMC, c'est un peu moins de 10% du nombre d'injonctions adressées aux bailleurs.
Oui, au total, 338 injonctions ont été adressées aux bailleurs depuis la mi-juin 2025, dont une majorité n'est pas encore passée entre les mains d'un juge. Parmi les 29 expulsions, celle d'une famille résidant à Gonesse dans le Val d'Oise. Elle a été expulsée il y a quelques jours de son logement qui servait d'appartement nourrice. De la drogue, des armes et de l'argent liquide étaient stockés sur les lieux. La préfecture indique qu'elle va maintenant attribuer le logement à une autre famille. De son côté, l'entourage du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se félicite de ces 29 logements libérés et parle d'un effet concret de cette loi. Selon nos informations, plusieurs dizaines d'autres procédures sont en cours et devraient conduire dans les prochaines semaines à de nouvelles expulsions de logements.
La pression s'accentue sur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle. L'affaire prend une tournure politique et de nombreux élus emboîtent le pas à Benoît Payan. RMC vous le révélait hier, le maire de Marseille demande au chanteur de renoncer à son concert prévu en octobre prochain dans sa ville.
Vous écoutez RMC, il est 7h04.
506 euros, c'est ce qu'il manque aux Français pour vivre convenablement. Selon un sondage Elab pour BFM TV, ils sont 8 sur 10 à déclarer se serrer la ceinture, conséquence de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des coûts du carburant. Une crise qui va durer, c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Il va dévoiler cet après-midi à 17h le nouveau paquet d'aides du gouvernement pour le mois de juin, à destination des secteurs qui n'en ont pas bénéficié à ce jour. Sébastien Krebs, chef du service politique, nous rejoint. Le Premier ministre avait promis de changer d'échelle. Sébastien, à quoi faut-il s'attendre?
À des aides qui vont sans doute très fortement ressembler aux précédentes en réalité, avec l'idée d'élargir le nombre de bénéficiaires, mais tout en gardant le pied sur le frein. Ne vous attendez donc pas à une baisse généralisée des prix à la pompe, pas de baisse de taxes par exemple, mais à des mesures de soutien qui vont rester très ciblées, temporaires et qui continueront de viser les Français qui travaillent, avec l'idée, explique l'entourage du Premier ministre, d'étendre le dispositif à davantage de gros rouleurs, les soignants par exemple. On n'abandonnera personne, a promis le Premier ministre. L'idée d'inciter les entreprises à prendre leur part, à verser des primes par exemple, a aussi été étudiée. Et puis il y a les aides ciblées sur les secteurs les plus exposés. Ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui sont aidés continuent continueront de l'être au mois de juin. Les agriculteurs, les pêcheurs, le BTP par exemple, et d'autres vont devenir éligibles. On pense par exemple à l'industrie du plastique ou la chimie, touchée par l'inflation des matières premières. En réalité, il n'est pas question que de carburant. L'impact de cette crise sur l'économie est bien plus large et va exiger des décisions difficiles dans les mois qui viennent. C'est aussi le message que veut faire passer le Premier ministre cet après-midi.
Et n'hésitez pas, appelez-nous au 3216. Dites-nous si vous en attendez encore quelque chose de ces annonces, de ces aides que promet le Premier ministre. Vous êtes peut-être infirmier, infirmière, aide-soignante, aide à domicile ou gros rouleur. Est-ce que vos habitudes ont changé et de quoi vous auriez besoin? Faites aussi vos demandes au 3216.
Il y a tout de même des bonnes nouvelles. La France reste attractive. Elle continue d'attirer les investisseurs étrangers, en tête pour la 7e année de rang des pays européens. C'est ce que nous dit ce matin le baromètre EY, et même si, Victor Jeanin, le contexte international ne pousse pas forcément à l'optimisme.
Dans les secteurs de la défense, de l'énergie, de l'intelligence artificielle notamment, la France séduit plus les investisseurs étrangers que ses voisins européens, grâce à la taille de son marché, le deuxième en Europe, ses centres de recherche, ses autoroutes ou encore son électricité nucléaire. Et il faut s'en réjouir, plaide l'auteur de l'étude, Marc Lhermitte.
C'est une bonne nouvelle, c'est une victoire de prestige. Et je peux vous dire qu'à Londres, à Berlin, on nous envie cette position. Arriver à attirer 852 investissements dans une année, c'est plus de 2 par jour. C'est une belle performance.
Reste que la France, comme ses voisins, subit le ralentissement de l'économie mondiale et la frilosité des grandes entreprises dans ce contexte incertain. Des entreprises qui préfèrent aussi temporiser à l'approche de la présidentielle, explique l'économiste.
Elles peuvent avoir une certaine retenue pour se dire « moi j'ai besoin d'un horizon de long terme, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans les... » 5 ans qui viennent et pas dans les 5 mois qui viennent.
Résultat, seulement 55% des entreprises étrangères interrogées comptent investir en France dans les 12 prochains mois. C'est 18 points de moins qu'il y a 2 ans.
La guerre au Moyen-Orient, Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid, toujours menaçant à l'encontre de Téhéran qui a reçu une nouvelle proposition américaine. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, tout peut aller très vite, dit le président américain, évoquant des pourparlers ne tenant qu'à un fil. Conséquence de cette guerre, la délocalisation de la Coupe du Monde e-sport. L'e-sport World Cup, organisé et financé par l'Arabie Saoudite depuis sa création en 2024, elle va finalement se tenir en France. Cet été, on parle là, Martin Bourdin, d'un événement XXL, rendez-vous incontournable pour les meilleurs gamers du monde.
Plus de 2000 joueurs venus du monde entier qui vont s'affronter tout l'été sur 24 jeux vidéo différents pour remporter des sommes records, près de 65 millions d'euros de récompenses cumulées distribuées aux vainqueurs. Et ce spectacle, il est scruté de très près partout sur la planète. 750 millions de personnes avaient suivi l'an dernier cette Coupe du Monde des clubs diffusée dans 140 pays. L'eSport World Cup, c'est une sorte de Jeux Olympiques du jeu vidéo professionnel aux yeux du sociologue de l'eSport, Nicolas Besson.
C'est vraiment un événement très mondialisé. Il y a à la fois des jeux très populaires en Europe, en Occident, comme Counter-Strike ou League of Legends, mais aussi des jeux qui sont très populaires en Asie. Il va y avoir des allées et venues de fans et de touristes. Paris étant une place assez centrale dans l'eSport, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y a des gens qui, parce que ça va se passer à Paris, risquent de faire le déplacement pour venir à Paris.
Une compétition qu'Emmanuel Macron tenait à organiser, lui qui veut faire de la France une place forte de l'e-sport. Il a même reçu le patron de la compétition à l'Elysée avant-hier. On ne sait pas encore dans quel lieu se dérouleront précisément les compétitions, mais il faut un espace où on peut accueillir plusieurs milliers de personnes, glisse un membre de l'organisation.
Le sport sur un terrain de foot, victoire 3-0 d'Aston Villa en finale de Ligue Europa face à Fribourg, 5e titre dans la compétition. Unai Emery, ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal, les deux clubs se retrouveront en Ligue des Champions le 30 mai. Ousmane Dembélé assure qu'il en sera blessé face au PFC. L'attaquant est confiant, il le dit dans un entretien retrouvé sur RMC. Ce soir, le Ballon d'Or répond aux questions de Jérôme Rotten et Benoît Boutron dans Rotten sans flamme des 18h.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Coup de filet dans le périscolaire parisien. 16 personnes en garde à vue ce matin. Des agents soupçonnés de violences sexuelles et de gestes violents contre des enfants. Bonjour Elisabeth Gutmann. Vous êtes l'une des mamans cofondatrices du collectif SOS Périscolaire. Vous vous félicitez que la justice continue d'avancer dans ce dossier évidemment. Mais pour vous, il y a des mesures d'urgence à prendre tout de suite pour protéger nos enfants. Et ce n'est toujours pas le cas, vous nous le dites dans un instant. 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 sur RMC et RMC Story. Une centaine d'écoles sous enquête, rien qu'à Paris. 78 agents de la ville suspendus depuis le début de l'année. Et on l'a appris hier, 16 personnes en garde à vue. Ça bouge enfin dans les affaires de violence dans le périscolaire. Bonjour Elisabeth Gutmann.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice, une des mamans cofondatrices du collectif SOS Périscolaire. Les 16 personnes là dont on parle, qui sont interrogées en ce moment même par la police, exerçaient toutes dans l'école publique Saint-Dominique à Paris et l'organisation des trois écoles qui sont regroupées autour de cette école Saint-Dominique à Paris. On parle de viol, on parle d'agression sexuelle, on parle de violence physique contre les enfants. 16 personnes d'un coup, comment vous réagissez d'abord? Évidemment qu'on se dit, mais 16 personnes pour une même école, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un réseau, c'est-à-dire que c'est une organisation, c'est-à-dire que c'est de la cooptation. Comment vous vivez ça?
Alors ça veut dire que c'est un dysfonctionnement majeur et qui perdurait depuis longtemps et qui n'avait pas été arrêté. Donc pour nous, cette arrestation, ces arrestations en masse, c'est aussi enfin un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, d'écoles en ce moment qui attendent qu'il y ait du mouvement, beaucoup de, d'animateurs qui ont été mis en cause dans des faits d'agression sexuelle ou pour des faits de violence physique grave ou psychologique grave et qui se baladent librement à Paris ou près de chez eux. Donc pour nous, c'est quand même un geste très fort, un événement, on va dire, dans cette affaire qui est emblématique. Hein. Avant elle, il y avait eu l'affaire de l'école Paul Dubois, qui était déjà une très grosse affaire et qui malheureusement n'avance pas du tout d'un point de vue judiciaire. Et là, il y a l'affaire de cette école, l'école Saint-Dominique, qui est tentaculaire également.
Tentaculaire, oui. Dites-vous, et sur plusieurs années, vous êtes évidemment de très très nombreux parents, désormais très solidaires aussi les uns des autres, au sein d'un certain nombre de collectifs. Vous estimez donc que c'est une étape, mais en même temps, dans le quotidien des enfants parisiens, dans l'organisation, y compris dans le recrutement, les mesures d'urgence que vous êtes nombreux à réclamer ne sont toujours pas mises en place. De quoi vous parlez ?
Non, effectivement, nous, ça fait depuis 2021. Notre collectif, il a été créé en 2021 et depuis 2021, on demande des mesures d'urgence. On avait déjà pris l'ampleur de ce phénomène de violence et on le portait déjà à la mairie de Paris, hein, auprès de Patrick Bloch, qui était le premier adjoint de Madame Hidalgo. Et donc, ces mesures d'urgence, elles n'ont pour l'instant pas été mises en place ou très peu.
C'est quoi ces mesures d'urgence ?
Alors, les mesures d'urgence, il y a déjà tout simplement les parents, nous puissions savoir qui s'occupe de notre enfant. C'est quand même pas...
Ça paraît délirant de penser que c'est toujours pas le cas.
Non, ça n'est pas le cas. On demande des trombinoscopes, donc avec les photos des animateurs, les noms des animateurs, de manière à pouvoir les identifier et que...
En parler avec vos enfants.
En parler avec nos enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il y a un animateur qui est mis en cause par un enfant, pour des faits de violence, l'enfant n'est pas toujours capable de donner son prénom, soit parce que l'animateur est de passage, soit tout simplement parce que l'enfant à 3 ans et demi, à 3 ans, n'est pas capable de se souvenir de son prénom, et c'est pas grave, c'est ok. Sauf qu'en fait, il n'est pas non plus en capacité de montrer son visage, puisqu'il n'y a pas de trombinoscope avec des photos. Ce qui a été voté pourtant au Conseil de Paris, déjà il y a plusieurs années.
Mais alors, qu'est-ce qui bloque ?
Alors aujourd'hui, c'est des avatars à la place des photos, donc c'est Pocahontas ou Mickey. Hein, pour
c'est ça qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'on vous donne un trombinoscope avec des
avatars.
Avec des avatars.
Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est impossible, bien sûr, pour un enfant d'identifier.
Oui, non, il va pas vous dire c'est Pocahontas.
Parce que les animateurs ne souhaitent pas qu'il y ait leurs photos pour des histoires de droit à l'image et aussi ils se sentent en danger du fait de mettre leurs photos sur un ordinateur.
Vous n'avez toujours pas aussi de réunion avec ces gens qui sont quand même en contact toute la journée avec vos enfants. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'au début de l'année, dans toutes les écoles, il y a une réunion avec les maîtresses, les maîtres. Rien avec tout le reste du personnel ou les agents du périscolaire.
Non, c'est vraiment au bon vouloir de là ou du responsable d'animation. Il y a dans quelques écoles des réunions de rentrée, mais c'est vraiment anecdotique. Et effectivement, c'est la deuxième demande qui paraît évidente, comme vous dites, qu'on porte auprès de la mairie de Paris. C'est d'obliger qu'il y ait obligatoirement en début d'année
une
rencontre avec les équipes, qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire avec les enfants et qu'ils se présentent tout simplement.
Vous venez de dire, Elisabeth Gutmann, dans le courant de votre phrase à propos du fait que les enfants n'étaient pas toujours en mesure de parler de ceux qui s'occupent d'eux, vous avez dit parfois aussi parce qu'ils sont de passage. Est-ce que ça c'est pas aussi le cœur du problème? Vous êtes nombreux à dire que vous considérez que 2013 a été un basculement. 2013, on le rappelle, c'est le moment où il y a eu la réforme des rythmes scolaires qui a créé aussi ce système d'un périscolaire avec des ateliers à droite à gauche, une heure par-ci, une heure par-là, et donc des recrutements sur des tout petits bouts de mi-temps avec des agents, effectivement, de passage, avec des gens qui sont là une heure, deux heures dans un établissement, ce qui a favorisé aussi la grande difficulté à ce qu'il y ait un suivi, une responsabilisation davantage. Et ça, c'est toujours pas vraiment remis en cause.
Alors, ça va être mis en cause là, justement, au cours de la Convention citoyenne. Ils sont en train d'en débattre. Donc, on verra là, mi-juin, fin juin, qu'est-ce qui est décidé. Effectivement, ce moment qui devait être un moment pour le bien-être des enfants, de repenser ces rythmes scolaires en disant, mais oui, s'ils ont moins d'heures de cours, ils vont aller mieux. En réalité, ces heures de cours, elles sont remplacées par du périscolaire. Et on voit que le périscolaire n'étant pas de qualité, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'il y a plein de raisons, hein, qui font, il y a plein d'agents qui sont de bonne volonté, qui sont là pour le bien-être, en tout cas, qui ont envie de s'occuper des enfants et qui arrivent vraiment avec des bonnes intentions, mais en fait, ça leur donne pas les moyens.
Ça a créé des failles. Vous avez parlé aussi de la question des moyens. Emmanuel Grégoire a annoncé un grand plan, effectivement, pour renforcer le périscolaire. Outre la question de la Convention citoyenne, il promet 20 millions d'euros, notamment pour mieux former ses agents. Est-ce que vous estimez que c'est ce que vous attendiez?
Alors, une meilleure formation, oui, c'est ce qu'on attend. Néanmoins, c'est pour l'instant pas à la hauteur de ce qu'on attend. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est 2 jours de formation pour les nouveaux vacataires. Ceux qui sont en place, ils sont pas formés. 2 jours de formation, ça ne nous suffit toujours pas. C'est mieux que rien, mais en fait, c'est quand même proche de rien. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais diplômes métiers. Maintenant, comme il peut y avoir dans les crèches, par exemple, puisque les enfants, ils ont 2 ans et demi pour les plus petits qui rentrent à l'école. Donc c'est une évidence.
C'est les tout petits qui ont besoin d'aide.
Des besoins psycho-émotionnels, bien sûr, il faut. Et on se rend compte que du coup, ça repose uniquement sur le bon sens de la personne qui va s'occuper d'eux, sauf qu'on n'a pas tous le même bon sens, on n'a pas tous eu la même enfance, donc les références de quelqu'un qui n'est pas formé, c'est les références de son noyau familial, de comment il a été élevé. Et ça n'est pas reproductible, et c'est pas, tout le monde n'a pas été élevé non plus dans la bienveillance et voilà, dans une mentalité qui permet voilà de s'occuper des enfants et surtout de groupes d'enfants, puisqu'on est, les quotas ne sont pas respectés, il y a un vrai manque de personnel. Donc s'occuper de 30 enfants, et ben ça n'est pas évident, et encore moins quand ils sont tout petits.
Merci beaucoup d'être venue faire le point avec nous ce matin. Elisabeth Gutmann, vous êtes donc cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Je signale également que votre collectif a prépassé ce livre qui vient de sortir, Les Rois du Silence, Périscolaire, l'enquête choc. C'est aux éditions Robert Laffont. Il est 7h20, notre historien est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est une voiture iconique qui pourrait revenir en version électrique, la 2 chevaux.
Eh oui, la 2 Dodge a fait rayonner la France dans le monde entier. C'était la première voiture de qualité pour les classes populaires.
Dans un instant, vous nous en faites le récit et l'histoire. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face à face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Arthur Chevalier. Arthur, la 2 chevaux va peut-être bientôt ressusciter. C'est ce que dit le journal Les Échos. Stellantis envisagerait de relancer la mythique voiture d'ici 2028.
Et oui, à ce stade, le nom de code de ce futur modèle, c'est l'e-car. Alors, ce sera une petite voiture électrique à un prix abordable, a priori moins de 15 000 euros. Cette voiture reprendrait donc le nom et les lignes de la fameuse 2 chevaux.
De quand datait le premier modèle de la 2 chevaux?
Alors la 2 chevaux, c'est une histoire de fou qui commence dans les années 1930. À cette époque, Citroën travaille déjà sur la 2 chevaux. La marque fait les premiers plans, les premiers modèles. À l'origine, la voiture devait être présentée en 1939. Sauf que pas de chance, puisqu'à cette date, la France entre dans la Seconde Guerre mondiale. Du coup, l'opération de chevaux est annulée. Le pays est occupé par les nazis. Pendant toute la durée de l'occupation, Citroën va planquer les plans de sa future voiture.
Les Allemands vont justement tout essayer pour avoir ces plans.
Et oui, puisque les Allemands avaient entendu parler de ce modèle révolutionnaire et ils ont proposé un marché à Citroën. Ils voulaient les plans de la 2 chevaux en échange des plans d'un modèle que les Allemands étaient eux en train de concevoir et qui deviendra une des premières voitures de la marque Volkswagen, ça sera la Coccinelle. Pendant toute la guerre, Citroën va refuser ce marchandage en ne voulant pas traiter avec l'ennemi.
La 2 chevaux, elle sort finalement en 1948.
Oui, et c'est un modèle inédit pour l'époque. La voiture est compacte, pas chère, solide, mais aussi confortable. La preuve, c'est que la 2 chevaux est tellement stable, Apolline, que des médecins l'a recommandée pour les femmes enceintes. Donc c'est quand même pas rien. On peut dire que c'était en fait la première voiture de qualité pour les classes populaires.
Mais pas seulement.
Oui, puisque la voiture devient aussi le symbole d'un art de vivre typiquement français. Il y avait un président qui a roulé en 2 chevaux. Ce président, c'est Valéry Giscard d'Estaing, et c'est une histoire assez amusante. Un jour, Giscard est en hélicoptère. Son hélicoptère a un problème. Du coup, il se pose, et la seule voiture disponible dans les parages, eh bien, c'était une 2 chevaux. Du coup, il a traversé Paris et franchi les grilles de l'Élysée dans une 2 chevaux. C'est un cas unique de l'histoire présidentielle.
Oh, c'est génial. On a l'impression d'une pub.
Voilà.
S'ils avaient voulu en faire une pub, ça aurait été encore mieux. La 2 chevaux va devenir une des voitures de James Bond.
Et oui, c'est dans le film Rien que pour vos yeux, qui est sorti en 1980. Et la scène, c'est une course-poursuite dans une 2 chevaux jaune pétante avec Roger Moore qui joue James Bond. Et à ses côtés, dans la voiture, c'est Carole Bouquet. bouquet.
Oh là là, magnifique. Surtout, la deux chevaux, c'est la voiture préférée de tous les temps des Français.
Exactement, c'est ce que disait un sondage réalisé en 2023. Alors, un résultat d'autant plus surprenant que la fabrication de la deux chevaux s'est quand même arrêtée en 1990, après plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Donc, c'est vraiment le choix du cœur. Cette voiture qui a eu tous les surnoms possibles et imaginables, hein, la Deux-Doches, le Petit Canard, la Chaise Longue sous la pluie, oui, c'est un surnom de la deux chevaux, et bien cette voiture légendaire, elle revient, Apolline.
Version électrique, donc sans doute. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Dans le face-à-face, tout à l'heure, mon invité, ce sera l'ancien ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial de la France au Liban, Jean-Yves Le Drian.
Oui, Apolline. Alors, partons tout de suite en forêt de Brocéliande. Je vous emmène en pleine nature à la rencontre du dernier macroniste de France. Voici Jean-Yves Le Drian, celui que l'on surnomme le menhir. Comme tous les Bretons, hein, comme oui, Jean-Marie Le Pen, comme Vincent Bolloré. Bon, pas comme Nolwenn Leroy, mais voilà. Jean-Yves Le Drian, qui est un animal centriste de la famille des macronistes de gauche, le dernier de son espèce. Il cherche vainement à s'accoupler, mais la disparition d'Elisabeth Borne du parti macroniste Renaissance rend l'opération impossible. Le macronisme de gauche est condamné à l'extinction. Ce n'est pas un dinosaure. Jean-Yves Le Drian a bâillé en regardant un discours de sa remplaçante Catherine Vautrin.
Elle est nulle. Aucune vision.
Les scientifiques sont formels. Si Jean-Yves Le Drian continue à penser qu'Emmanuel Macron est un bon président, c'est probablement que dans sa forêt, il n'a pas reçu toutes les infos de ces dernières années parce que ça capte pas.
Parce que c'est une zone blanche.
C'est une zone blanche. Alors Jean-Yves Le Drian, c'est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron au Liban. C'est comme ambassadeur, sauf qu'il ne représente qu'Emmanuel Macron.
Oh non. Bon,
c'est un peu moins. C'est pas. En fait, c'est comme être mannequin, mais mannequin pour les pieds, quoi. Dans les pubs pour les mycoses, vous voyez, c'est un stade en dessous. Et sa mission, c'est d'assurer la paix dans la région. Bah bravo, mission accomplie. La seule région libanaise à pas avoir été bombardée jusque-là, c'est Saint-Tropez, c'est nul. Alors j'ai lu hier, Donald Trump menace de frapper l'Iran si un accord n'est pas trouvé. Et vous allez me dire, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est la même info que lundi dernier, voire que samedi dernier, ou que jeudi dernier, ou que mardi dernier,
ou que dimanche lundi dernier. D'ailleurs.
Parce que non mais Donald Trump dit ça tous les deux jours et le jour d'après il fait on est à deux doigts d'un accord, le plus grand de tous les accords jamais accordés à un accord, et ça tourne un peu en rond. C'est vrai que ça tourne en rond. D'ailleurs sur BFM ils s'emmerdent plus, ils rediffusent la matinale d'il y a deux jours. Vous avez remarqué, il y a personne, il y a rien qui change. Si le seul truc à bouger c'est le virus de la semaine. Voilà, bon là c'est Ebola, dans une semaine ce sera la polio. Bon. Ah, Jean-Yves Le Drian baille en loge. Il s'impatiente, il est arrivé. Eh bien, rendez-vous à 8h30. À
tout à l'heure. Je vous adore en commentaire animalier.
Bah oui, bah j'en referai un la semaine prochaine pour une nouvelle victime.
Allez, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, baby foot. Venez donc sélectionner un joueur et donc un cadeau dans la liste des 26. Vous envoyez dès maintenant liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. On sera en direct avec le gagnant avant 8h, vers 8h20. Et le studio s'est transformé en boîte de nuit, je vous le dis.
Coupe du monde,
honnêtement,
disco,
c'est ambiance disco pour la Coupe du Monde. Allez, il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis Arnaud Demange sera de retour aussi à 8h15. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Il sera là, Ousmane Dembélé, invité exceptionnel de Rotten sans flamme ce soir. Et il le dit sur RMC, son mollet ira mieux pour la finale de la Ligue des Champions. Qui, quand, comment et surtout combien Sébastien Lecornu doit dévoiler de nouvelles aides carburant à 17h. Certains secteurs attendent un coup de pouce pour relancer l'activité. Et après les plaintes pour viol et agression sexuelle, Patrick Bruel, cerné par les maires de grandes villes qui lui mettent la pression pour qu'il annule ses concerts.
Ousmane Dembélé rassure tout le monde et c'est sur RMC.
Vous notez bien le rendez-vous, la star du PSG invité exceptionnel de Rotten sans flamme dès 18h à 9 jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Petite alerte au mollet ce week-end, mais l'attaquant le promet, il tiendra sa place.
voilà, j'ai eu une petite alerte face au PFC, mais ça va. J'ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ça soit ici au Paris Saint-Germain ou même avant, surtout les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale surtout. Donc non, j'ai préféré m'arrêter et pas prendre de risques surtout. Ça va le faire pour
la. Ça va, tu penses que tu seras 100%.
Oui, ça va le faire. Donc j'ai pas de doute sur ça. J'espère être sur le terrain le 30.
Interview à retrouver en intégralité sur RMC à 18h dans Rotten sans flamme. Notez que l'ex-entraîneur de Paris, Unai Emery, a été sacré en Europa League pour la 5e fois de sa carrière. Son équipe d'Aston Villa a remporté la finale 3-0 hier soir contre Fribourg. De nouvelles aides carburants doivent être annoncées cet après-midi. Sébastien Lecornu face à la presse à 17h et il pourrait élargir le champ des travailleurs soutenus face à l'envolée des prix à la pompe. L'autre enjeu pour endiguer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, c'est comment secourir les filières les plus exposées, comme la plasturgie. À Saint-Vulbas, dans l'Ain, par exemple, RMC s'était rendu dans une usine de bacs et de palettes, contrainte de fermer ses portes pendant une semaine. Vincent Chevalier, pour son patron, l'avenir est toujours incertain.
Cette fermeture temporaire a été un crève-cœur pour Fabrice Bachelier, le directeur général d'Uts France.
Une usine à l'arrêt, une usine qui fait pas de bruit, c'est toujours angoissant.
À la reprise de l'activité, avec la flambée des prix des matières premières issues de la pétrochimie, il a fallu se réorganiser, renégocier les contrats avec des clients. Un mal pour un bien, certains ont préféré anticiper la suite.
Le fait d'avoir du stock de matières premières, on a nos clients qui ont beaucoup commandé en prévision des fortes augmentations de matières. Donc on a pris beaucoup de commandes, on a rempli les ateliers, je dirais jusqu'à la période de l'été.
Mais le chef d'entreprise n'est pas aussi serein pour le deuxième semestre, avec une guerre qui s'éternise et un risque de pénurie sur certaines matières. S'il n'attend pas grand-chose du gouvernement, quelques aides pourraient être les bienvenues.
Beaucoup d'entreprises vont utiliser ces prêts s'il y a des prêts garantis par l'État, comme ça s'était fait pendant le Covid. S'il y a ce genre d'aide, les entreprises qui sont en situation financière tendue vont certainement les utiliser. Ce ne sera pas notre cas. Nous, ce qu'on attend, c'est effectivement qu'on ait peut-être moins de taxes sur les produits pétroliers, sur les matières plastiques. Il faut effectivement peut-être que le gouvernement joue un peu plus le jeu de ce côté-là.
Une possibilité écartée depuis le début du conflit par le Premier ministre.
On en vient à ces tensions diplomatiques et à ce tollé international venu d'Israël. Paris a annoncé hier convoquer l'ambassadeur israélien. La même chose en Belgique, en Espagne, en Italie ou encore aux Pays-Bas. Cyprien Pézeri, l'objet de la polémique, c'est une vidéo de détention de militants pro-palestiniens, dont 37 Français, interceptés alors qu'ils tentaient de rallier Gaza par bateau.
Des dizaines de militants pro-Gaza, agenouillés, tous collés les uns aux autres, visage face au sol, les mains liées et l'hymne national en fond. Image publiée par Ben Gvir, l'un des ministres les plus extrémistes du gouvernement israélien. Humiliation à tel point que Benjamin Netanyahou considère que ce n'est pas conforme aux normes et valeurs d'Israël. Parmi les interpellés, des Canadiens, des Belges, des Italiens et des Français. Agissement indigne, dénonce la France par la voix de Jean-Noël Barrot. Quoi qu'on pense de cette flottille, nos compatriotes doivent être traités avec respect, écrit le ministre des Affaires étrangères, qui convoque donc l'ambassadeur en guise de sanctions diplomatiques. Un premier pas insuffisant pour Gabrielle Catala, députée LFI et ancienne participante à une flottille.
On ne peut que se féliciter que pour la première fois, le Quai d'Orsay annonce convoquer l'ambassadeur d'Israël. Mais moi, j'aimerais que la convocation, ce ne soit pas que pour ces images. Elle est justifiée par le génocide qui se poursuit à Gaza, par la colonisation qui s'accentue en Cisjordanie. Et donc moi, j'aimerais des sanctions à l'égard d'Israël et j'aimerais que l'ambassadeur d'Israël soit renvoyé en Israël.
Une scène condamnée par d'autres dirigeants européens. La première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, convoque elle aussi l'ambassadeur d'Israël.
Et à 8h30, ne manquez pas dans le face-à-face la réaction de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, qui sera mon invité.
À 7h35 sur RMC, Paris, puis Marseille, puis Lille et d'autres dans leur sillage. Toute la journée d'hier, des maires de grandes villes ont appelé Patrick Bruel à annuler ses concerts. Eux-mêmes n'ont pas le pouvoir d'interdire à l'artiste de se produire dans leur commune. Alors Marion Gauthier, face aux 12 plaintes en France pour viol et agression sexuelle, il lui demande d'agir lui-même.
Ils en appellent à la responsabilité du chanteur. Les maires socialistes de Lille ou Saint-Étienne, l'édile Horizon de Reims, qui pensent personnellement que la tournée devrait être annulée ou reportée. Quant à Brest, le maire d'hiver droite, Stéphane Roudot, met en avant la sérénité nécessaire à la justice.
Vous imaginez aujourd'hui les concerts se tenir ? Je pense qu'il y a des personnes qui ont acheté ces billets qui n'iront pas, d'autres qui viendront pour manifester devant les salles pour que la justice passe Il faut de la tranquillité, de la sérénité.
Une question aussi de dignité, pas incompatible avec la présomption d'innocence pour lui, comme pour la métropole de Nancy, qui insiste sur le nombre de témoignages et leur convergence. Son vice-président, Hussein Chabira.
On ne peut pas d'un côté lutter contre la violence sexuelle à l'encontre des femmes et de l'autre côté accueillir sur notre territoire une personne qui fait l'objet d'une trentaine d'accusations. On ne pouvait pas rester silencieux.
Patrick Bruel est programmé presque chaque semaine, du 16 juin jusqu'au 21 novembre en France. À Toulouse, le maire n'envisage pas de prendre le costume du censeur, dit-il, une position qui serait inverse si le chanteur était condamné.
Marion Gauthier pour RMC. On vous le présentait hier, à la même heure, Emmanuel Moulin a bien été nommé gouverneur de la Banque de France. Trop peu de sénateurs et de députés se sont opposés à ce nom proposé par Emmanuel Macron, dont il est infidèle. Et puis en mode basket, pas de deuxième victoire consécutive pour Victor Wembanyama en finale de la conférence Ouest de NBA. Ses San Antonio Spurs viennent de s'incliner 122-113 contre l'Oklahoma Thunder. Un match partout dans cette série où le premier à 4 matchs l'emporte.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp aujourd'hui.
Départ à 20h15, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 6, Bassanti. Son outsider, c'est le 14, Senna Yulia. Le 6 et le 14.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h37. On part au 32-16. C'est Sophie qui témoigne ce matin. Sophie, aide à domicile à Saint-Gaultier dans l'Indre. Bonjour Sophie.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Sophie? Ce matin, vous nous parlez de votre quotidien qui a évidemment changé avec le prix du carburant, avec le retour aussi de l'inflation. Sébastien Lecornu doit annoncer des aides cet après-midi. Vous espérez encore quelque chose, vous?
Ah, plus rien du tout. Ça fait longtemps que j'ai oublié d'espérer quelque chose de ce gouvernement. C'est des mesurettes, ça sert à rien. On comprend rien à ce qu'ils disent, de toute façon. Et nous... je vous ai eu au téléphone il y a quelques temps en arrière.
On s'est parlé il y a 15 jours.
Voilà, un peu plus. Et puis, j'ai l'impression que plus ça va, plus je coule.
Plus vous coulez, c'est-à-dire comment ça se traduit au quotidien, Sophie?
C'est-à-dire qu'un jour sur deux, je vais travailler à pied pour pouvoir travailler.
OK. Donc, pour économiser du carburant.
Voilà, 5 à 10 km par jour.
OK.
Voilà, et derrière, je me prive. Donc, je mange de la viande très peu. J'achète tout en date courte et ça m'arrive de faire les poubelles.
Ça vous arrive de faire les poubelles? C'est nouveau ça? Voilà. Enfin, vous avez un boulot, Sophie.
Oui, j'ai un boulot, mais j'y arrive pas. Je suis toute seule, donc femme seule, avec un travail, malheureusement propriétaire de sa maison, je dirais. Donc aucune aide.
Donc vous n'avez aucune aide? Vous touchez combien par mois, vous, de votre boulot?
Alors, mon boulot, je suis à entre 1000 et 1200 euros les bons mois. Et j'ai pris un boulot supplémentaire pour compléter.
C'est quoi?
Alors, je fais des études dans les magasins, les relevés de prix. Alors, je suis au cœur de l'actualité.
Oui, j'ai envie de vous dire, honnêtement, vous êtes aux premières loges et vous les voyez monter, du coup, les prix. C'est pas ça qui va vous détendre. Mais dites-moi, Sophie, mais c'est quand même très fort quand vous dites, désormais, je fais les poubelles. C'est-à-dire que quoi? Quand vous sortez des magasins, comment ça se traduit? Comment ça s'est passé la première fois que vous avez fait ça, Sophie?
Bah écoutez, moi je me suis aperçue que les magasins continuent à gaspiller de la nourriture, pas tous hein, bien sûr, et que on était de plus en plus de gens à faire de la récup. Alors c'était au départ des palettes, et puis on s'est aperçu qu'il y avait de la nourriture. Donc on a monté un petit groupe.
Ouais.
Et une fois par semaine, on se retrouve et on mange à 3-4 familles sur les poubelles des magasins.
Ensemble.
Ensemble.
Ah, au moins, vous n'êtes pas seul. Mais c'est vraiment une sorte d'organisation désormais.
Ah oui, c'est une organisation. On se réunit en petits groupes. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas. Donc, forcément, il y a des produits que je ne prends pas parce que je n'ai pas d'enfants.
Parce que vous leur laissez en priorité?
Parce que je leur laisse. Mais il y a des légumes. Mais il n'y a pas que de la nourriture, malheureusement. C'est ça le problème.
Et vous mangez sur place?
Non, on emmène. Non. On emmène, on trie.
D'accord.
On fait attention à ce qu'on mange, hein, parce qu'on ne veut pas non plus tomber malade.
Mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes retrouvés?
En fait, c'est tout bête. Hein. Moi, au départ, j'étais allée dans les poubelles pour récupérer de la ferraille, histoire de me dire, je vais me faire un petit billet en fin d'année. Ouais. Et puis, j'ai vu une personne et on a monté un petit groupe WhatsApp. Et dès qu'il y en a un qui a une information sur un magasin qui jette, on
il informe les autres et il y a une solidarité.
Voilà.
Presque une amitié dans ces moments-là, en fait.
Ouais. Bah, on essaye de faire comme on peut pour se sortir de cette galère. Et encore, moi, je suis pas à plaindre. Je travaille, j'ai une vie sociale quand même. Mais bon, il y a des gens qui sont seuls. Quand ils ferment la porte de chez eux, ils font quoi?
Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage.
On va attendre qu'il y ait des drames.
Merci Sophie pour votre témoignage ce matin et régulièrement à l'antenne d'RMC. Sophie, donc aide-soignante dans l'Indre, aide-soignante et effectivement ces études que vous faites en plus pour les magasins. Merci pour votre témoignage, 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France est toujours championne d'Europe des investissements étrangers. Bonjour Louis-Marguerite. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Business France. Vous avez pris votre poste il y a 2 mois et vous pouvez vous féliciter de ce classement. La France est donc le pays d'Europe qui attire le plus d'investisseurs internationaux. Alors, pour autant, ces investissements, ils sont en baisse de 17%. On est en train de se faire rattraper par certains de nos voisins. Vous êtes sûr de votre classement? Parce que j'avoue que dans le contexte actuel, on se dit c'est assez inouï qu'on s'en sorte au moins sur ce point.
Oui, c'est une bonne nouvelle et il faut la saluer. On en est d'autant plus sûr que c'est pas nous qui le faisons, même si évidemment nous travaillons avec EY, c'est eux qui font le classement maintenant depuis pas mal d'années. Moi, je retiens 3 choses importantes. La première, c'est que la France tient son rang. La France tient son rang grâce à ses fondamentaux, grâce à son réseau de transport, son réseau d'électricité, son accès à l'énergie qui est décarbonée, abondante, et on sait tous ses atouts. La deuxième chose, c'est que nous sommes premiers sur un certain nombre de sujets, les sujets industriels, les sujets liés aux data centers, les sujets aussi sur les centres de décision. On reste deuxième, et ça c'est bien, parce que ça prouve que les investisseurs veulent s'établir en France. J'étais hier à Dubaï, à Abu Dhabi, on a notamment une banque d'Abu Dhabi qui souhaite établir son hub en France. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et puis la troisième, vous avez raison, c'est que c'est une baisse, mais c'est une baisse qui est généralisée en Europe, qui montre effectivement peut-être un début d'attentisme, mais généralisé en Europe.
Oui, donc c'est pas nous qui baissons et les autres qui montent.
Non, c'est nous baissons, et d'ailleurs voilà, nous baissons. Alors un peu plus que les autres, c'est vrai, mais on reste notre première place. Et je suis content de voir que certains même nous avaient prédit que nous allions perdre notre première place, nous le sommes toujours.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous parlez des infrastructures. On en parle beaucoup en ce moment. La solidité aussi de notre réseau d'électricité et son coût très faible par rapport à nos voisins, notamment parce que l'investissement dans nos centrales, ça c'est un des arguments qui fait que quand ils ont le choix entre investir entre différents pays européens, ils vont choisir la France.
Clairement, parce que la France a choisi le nucléaire depuis tant d'années, depuis des dizaines d'années, on le sait, on a eu ce débat. C'est d'ailleurs un débat qui transcende assez largement les partis politiques, et tant mieux.
Désormais, ça n'a pas été le cas.
C'est vrai, mais en tout cas, c'est une bonne chose avec la loi de 2023 qui a donné vraiment un souffle, vraiment une poussée très forte là-dessus. Nous exportons assez largement aussi notre électricité, et nous avons des demandes extrêmement fortes. Il y aura des annonces d'ailleurs à Choose France qui aura lieu le 1er juin au château de Versailles. Ce sera probablement un assez beau Choose France avec effectivement beaucoup d'annonces sur tout ce qui est data center, tout ce qui est intelligence artificielle, et parce que nous avons à la fois de l'espace et un bel accès à l'énergie.
Vous avez entendu les propos d'Arthur Mensch, le patron de Mistral IA, face au sénateur il y a quelques jours, à qui il a fait un tableau très sombre de la manière dont la France et l'Union européenne se tiraient des balles dans le pied.
Moi, je pense qu'on a des progrès à faire en européen, parce que ça peut être aussi une bonne réponse face à la déferlante asiatique. On en parle aussi régulièrement sur votre plateau, parce que non seulement la concurrence asiatique, elle a fait beaucoup de concurrence en termes de prix, mais maintenant aussi sur la qualité de ce que nous consommons. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une réponse en termes de protection, bien évidemment, mais aussi en termes d'export européen. Effectivement, on n'est pas encore au bout des choses, mais bon, après, encore une fois, il y a peut-être des expériences heureuses et puis des expériences un peu moins heureuses. Nous, on accompagne tous les types d'investisseurs. Voilà,
avec une question aussi sur ce que l'on a appris hier, l'entreprise chinoise Dongfeng va s'installer en quelque sorte dans une usine Stellantis en France et près de Rennes pour produire des voitures électriques et hybrides. Est-ce qu'on peut se dire c'est une très bonne nouvelle, cette association en quelque sorte avec un fabricant chinois, ou est-ce que c'est pas une manière d'avoir fait quand même rentrer le loup dans la bergerie?
Je crois que c'est une décision qui est en tout cas un projet qui est pragmatique. Je comprends que cette décision puisse...
En gros, ils vont être colocs de lignes de production, quoi.
En fait, il faut d'abord voir que nous, en France, on est plutôt plus protecteurs que beaucoup d'autres pays européens. D'ailleurs, parfois, ça nous joue des tours. Notamment les Chinois, en tout cas les investisseurs chinois, souhaitent venir dans des pays européens qui n'ont pas voté les droits de douane. Et parfois, ça nous joue des tours dans nos propres filières. Je pense à la filière cognac, je pense à un certain nombre d'autres filières. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la part de l'automobile chinois en France est 2 fois plus faible en France que dans d'autres pays européens. C'est 8%, que la moyenne européenne, c'est 14%. Donc, on est plutôt plus protecteurs protecteur. Et en l'occurrence, moi, je pense qu'il faut se dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir des voitures en marque française produites ailleurs que chez nous, plutôt que des voitures sous marque autre que française, en l'occurrence, ça pourrait être chinoise ou d'autres, qui sont pour partie produites en France. C'est important d'avoir cette main d'œuvre, donc je pense que c'est une décision pragmatique.
L'élection présidentielle est dans un an, il n'y a toujours pas de majorité réelle et solide à l'Assemblée. Est-ce que cette insécurité politique, instabilité, difficulté à prévoir, pèse aussi dans le léger ralentissement des investissements?
Alors, elle n'aide jamais parce que les gens nous posent des questions. Moi, de partout où je suis passé aux États-Unis, je suis passé hier dans les Émirats arabes.
Vous êtes un peu le VRP de la France, quoi.
Je suis un des VRP de la France, mais c'est merci de ça. Non, mais pour autant, je pense que ce qui est important, c'est de donner de la visibilité. Et ce que nous disent les investisseurs, c'est que quelle que soit la trajectoire politique de la France, quand ils l'apprennent, parce que parfois ça peut ne pas les intéresser, ils nous disent que de toute façon, la France reste la France en termes d'infrastructure, de densité, d'accès à l'énergie, et ça, quoi qu'il arrive, ça restera.
Merci beaucoup d'être venu donc défendre le business France, Business France, puisque vous êtes le nouveau directeur général de Business France, Louis Marguerite. Il est 7h50, elle est rentrée dans ce studio, la voix de gauche, Cécile Duflot. Salut Cécile.
Bonjour Pauline.
Les boutiques de centre-ville doivent éteindre leur enseigne la nuit, relancer l'idée de l'économie d'énergie. C'est votre combat ce matin.
Et oui, parce que la ville rose ne doit pas devenir la ville lumière. C'est le tribunal de Toulouse qui lui a rappelé. Mais plus que ça, je voudrais dire que les économies d'énergie doivent redevenir tendance.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53, et comme tous les jeudis, c'est la voix de gauche sur RMC. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, on l'a appris hier, pour la première fois, une ville a été condamnée pour ne pas avoir obligé des enseignes à éteindre leurs vitrines la nuit. C'est la ville de Toulouse. Elle doit donc appliquer la loi, c'est ce que rappelle le tribunal. C'est une décision salutaire à vos yeux.
Oui, c'est une très bonne décision à l'initiative de France Nature Environnement qui avait porté plainte, parce que en fait, c'est l'exemple même du gaspillage. C'est vraiment, ça ne sert à rien, des vitrines allumées la nuit, ça ne sert à rien. Depuis 2013, c'est dit, la réglementation s'est renforcée même en 2018, et donc la justice dit simplement une chose très simple, il ne faut pas interdire la lumière ni l'éteindre, il faut juste éviter l'absurde d'allumer la nuit. Et on se souvient, il n'y a pas si longtemps, en 2022-2023, on nous a expliqué que chaque kilowatt consommé comptait.
Vous évoquez justement cet hiver 2022-2023, on était en pleine guerre en Ukraine, c'était un moment où on s'est tous dit « faut baisser le chauffage ».
Oui, c'est la première fois où on a dit « attention, il peut y avoir des risques de coupure ». Et ça, tout le monde s'est rendu compte de ce que ça voulait dire si 2 heures par jour, on n'avait plus d'électricité à la maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des raisons, hein, les centrales nucléaires en rénovation, la guerre en Ukraine, le prix du gaz. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait énormément baisser la consommation. Les ménages, tout le monde, moins 9%, c'est énorme. Et donc ça a montré qu'en fait, si on voulait faire des efforts ensemble, on y arrivait. Tout le monde l'a fait, y compris les entreprises, mais aussi, je le dis, les ménages et les collectivités locales. Parce qu'on parlait franchement, parce qu'on expliquait que c'était un effort collectif, donc on est capable de le faire ensemble de manière collective.
Et on le fait plus ?
Eh ben, en fait, on s'est un peu relâché sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'est quand même pas revenu, donc ça a réaugmenté un peu en 2024, et l'année dernière, on est retrouvé à un niveau qui est quand même très antérieur à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on sait un peu maintenant ce que c'est que la sobriété, décaler ses machines la nuit, etc. Je pense qu'on a encore un pas de plus à faire, c'est que aujourd'hui, on croit que l'abondance lumineuse, la surconsommation d'énergie, c'est une sorte de progrès. C'est comme ça, en fait, qu'on a construit le progrès au XXe siècle, on a
gaspillé l'énergie. C'est Times Square, c'est évidemment...
Exactement. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à faire différemment et se dire que la sobriété, économiser l'énergie, on le voit avec ce qui nous arrive autour du pétrole et ce qu'on nous dit chaque matin, c'est que ça peut être tendance. C'est de se dire, voilà, c'est un grand chantier pour tous les Français. Comment on va vivre aussi bien en gaspillant moins d'énergie ?
Comment on fait pour que ça devienne tendance ?
Eh ben, parce qu'on dit que c'est une aventure collective. C'est pour ça que je parlais de l'hiver 2022-2023. On s'est dit, attention. Attention, regardez ce qui risque de nous arriver. Donc, on va pouvoir le faire ensemble. Et pour tout dire, RTE, qui gère le réseau électrique, a été surpris de l'ampleur de la baisse. C'est-à-dire qu'on est allé bien au-delà de ce dont on avait besoin. Ce qui prouve qu'on est capable de le faire, il faut le faire aussi de manière positive. Et c'est aussi ça, c'est toujours vécu comme une sorte de privation, pas du tout. En fait, payer moins d'électricité, payer moins d'énergie, ça nous laisse plus d'argent pour faire des choses plus sympas que gaspiller de l'énergie.
Et c'est dit, merci Cécile. Cécile Duflot, ancienne ministre et voix de gauche d'RMC. Demain, place au débat. Face à vous, Cécile, la voix de droite, Charles Consigny. Il est 7h56. 6. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une Sébastien Lecornu qui doit donc annoncer cet après-midi une nouvelle aide face à la crise énergétique. Quelles pistes envisager? On vous dévoile ces pistes, mais on attend aussi vos demandes. Appelez-nous au 3216 pour nous dire ce que vous en attendez. Et puis juste après, il y aura Emmanuel Le Chip, justement sur ces aides. Les patrons vont sans doute devoir passer à la caisse à un moment, va falloir payer quand même.
Mais c'est eux qui vont assurer notre pouvoir d'achat et donc il faudra pas dire merci Macron, mais merci patron.
Vous nous le dites dans un instant. Il va y avoir aussi la météo et Géraldine, vous allez voir, s'en donne à cœur joie parce que ça y est, il fait beau et il fait chaud. 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.